Cher collègue, cher Paul Colonna, il y a moins de 20 ans, un nouveau concept est né dans le monde, celui de la chimie verte. Cette chimie est une alternative de l'utilisation du carbone fossile et d'autres types d'énergie non renouvelables, gaz, charbon. La chimie traditionnelle à base de pétrole est certes performante, créative, compétitive et répond bien à nos besoins. Mais elle épuise les ressources de carbone fossile et est polluante. La chimie verte se développe à côté de la chimie traditionnelle, mais plutôt que la concurrencer, elle pourrait, elle devrait la complémenter. La chimie verte est une chimie non toxique, respectueuse de l'environnement naturel. Elle utilise les ressources du monde végétal, plus particulièrement, plus précisément, les fractions non alimentaires de la biomasse, des plantes aux microalgues. Ainsi sont créés des produits qu'on pensait ne pouvoir obtenir jusqu'à présent qu'à base de chimie de pétrole. Quelques exemples, les biocarburants, de nombreux intermédiaires chimiques pour une chimie plus propre et sobre, les plastiques biologiques, dont le principal avantage est d'être biodégradable. Cette chimie exige un savoir-faire peu ordinaire. Être familier de la biologie des végétaux, agronome, avoir une solide formation de biochimiste et de chimiste et savoir transférer ses découvertes au plan industriel. Votre formation d'ingénieur agronome à l'Institut national d'agronomie de Paris et Grignon, votre doctorat de sciences physiques à Paris 6, vos séjours à l'étranger vous ont apporté toute la compétence nécessaire à la réalisation de vos projets. Vos premières recherches ont porté sur la biochimie d'un glucide complexe, l'amidon, et son métabolisme chez l'homme, entre autres. Vous vous êtes intéressé à trouver de nouvelles applications à l'amidon dans des applications non alimentaires, dans un contexte d'excédent de matières agricoles au niveau européen. Puis vos recherches ont porté de façon plus globale sur l'usage non alimentaire de la biomasse, sur l'utilisation des propriétés de matériaux et sur la conception de nouveaux systèmes de production de bioproduits par ingénierie cellulaire. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique à Nantes et directeur du réseau national bioénergie, biomolécules et biomatériaux du carbone renouvelable. Vous êtes aussi le président du comité scientifique du premier projet français d'envergure, projet Futurol, visant à mettre sur le marché un procédé et des produits issus des biotechnologies pour assurer la production de bioéthanol de deuxième génération. En France, 92% des produits chimiques sont encore d'origine pétrochimique. Vous prédisez qu'en 2020-2030, 25 à 30% des molécules de base devraient provenir du carbone renouvelable, à condition de relever plusieurs défis. Défis technologiques et industriels, défis financiers, les coûts de la chimie verte sont encore trop élevés, défis systémiques, enfin, car il faut tenir compte du contexte environnemental, sociétal et économique pour le développement de cette chimie qui ne doit pas se faire au détriment de ressources alimentaires d'origine végétale, indispensables, bien sûr, dans les pays en émergence ou en développement. Vous êtes particulièrement bien qualifié pour aborder ces enjeux et ces défis. Dans le cadre de la chaire annuelle Développement durable, environnement, énergie et société, créée avec le soutien de Total. Nous vous remercions beaucoup.
Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, c'est avec fierté et humilité que je viens dans cette enceinte du Collège de France. Je remercie l'Assemblée des professeurs pour son accueil chaleureux et la confiance qu'elle me témoigne en m'appelant à occuper la chaire développement durable pour cette année. Je comprends ma présence ici comme une marque de votre intérêt et votre ouverture envers mon domaine de recherche qui est éminemment interdisciplinaire. à la croisée de la chimie, de la physique et de la biologie. Ce choix consacre surtout l'importance des questions posées par la société et l'explosion des connaissances dans ce domaine de la chimie verte, du carbone renouvelable. Je suis conscient de la responsabilité qui m'échoit, car il s'agit de questions qui concernent non seulement la communauté scientifique, mais toutes les composantes de la société. Nous sommes installés dans le confort de cette salle au Collège de France, qui reflète notre niveau de vie matériel en France. Ce confort peut être appréhendé à partir simplement de l'analyse des dépenses des ménages français, à mettre en correspondance avec la satisfaction des besoins de tous les individus. Le premier poste de dépense, c'est le logement, c'est-à-dire l'artificialisation de notre mode de vie pour se protéger contre les aléas, climatiques en particulier, et des dangers. Dans l'ensemble des produits fondés sur le carbone fossile et le carbone d'origine biologique, se côtoient, à travers ce tableau, différentes filières qui peuvent être mises en correspondance. Chaque filière correspond à un itinéraire technologique, donc au choix d'une matière première, à une combinaison d'opérations unitaires, chacune générant des propriétés. La seule ligne qui échappe, bien entendu, au carbone fossile, aujourd'hui, est la ligne alimentation et boisson, dont vous voyez qu'elle n'arrive qu'en troisième position. La ligne loisirs et culture échappe en partie seulement au carbone fossile, mais elle comprend tout le carbone biologique nécessaire à l'impression des documents que nous lisons. Alors, depuis la nuit des temps, les sociétés humaines utilisent des matières premières animales, végétales, microbiennes pour s'alimenter, se vêtir, se loger, produire de l'énergie. Depuis le début du XVIIIe siècle, les matières premières issues de la biomasse qui constituaient les seules ressources disponibles à ce moment-là ont été progressivement substituées par du carbone fossile, d'abord la carbochimie, ensuite la pétrochimie. Mais à l'heure actuelle, il est important de souligner que 60% de notre habillement encore repose sur des fibres dites naturelles par opposition à des fibres artificielles venant de la pétrochimie. Dans les médicaments, 5%, donc c'est la dernière ligne du tableau, dans les médicaments, 5% des molécules sont strictement naturelles, 60% résultent d'une combinaison de chimie organique, de chimie de synthèse et de ressources naturelles, ce qu'on appelle de l'hémisynthèse, puisqu'on va venir modifier une molécule naturelle. Et au cours des 20 dernières années, il y a eu un retournement de tendance avec un appel de plus en plus fort vers cette chimie du carbone renouvelable, du carbone d'origine biologique, à des finalités de carburant, donc des finalités énergétiques, de matériaux et de chimie en général. Alors ce changement de point de vue peut être perçu comme un retour en arrière, mais il a lieu dans un contexte complètement différent que je vais vous montrer ces premières lignes. Alors en restant toujours sur une échelle française, on peut démonter ce bien-être énergétique et voir la transition qui se profile derrière. Donc la France, en 2008, a consommé 280 millions de tonnes d'équivalent pétrole pour les différentes fonctions à assumer, aussi bien des fonctions de production, de transport, de chauffage, etc. Donc c'est transversal à tout le tableau précédent. Dedans, il n'y avait que 18 millions de TEP qui provenaient d'énergie dite renouvelable. Si maintenant vous regardez dans ces 18 millions de TEP, en exprimant ça en pourcentage, vous voyez que la partie biomasse représente environ 60%. Donc vous avez là-dedans 18,2 de TEP qui sont sur cette base-là. Les projections qui ont été faites par l'ADEME, par le MINEFI et d'autres organismes en 2020 montrent que la consommation française à ce moment-là d'énergie devrait se monter exprimée en millions de TEP, toujours à 305 millions, et que dedans, la part du renouvelable sera grosso modo doublée et passera à 36,6. Les pourcentages relatifs d'énergie de sources d'énergie renouvelable dans ce tableau varient relativement peu, avec bien entendu toute l'imprécision liée à ce genre d'exercice. Si vous prenez maintenant les projections qui sont faites au niveau mondial, donc l'analyse mondiale, vous voyez que la biomasse dans cet ensemble-là ne représente que 12,9% de l'énergie. La renouvelable ne représente que 12,9% de l'énergie consommée. Les postes majoritaires sont le charbon, le gaz et le pétrole. Dans l'analyse de cette biomasse, vous retrouvez bien entendu les mêmes postes que ceux qui sont utilisés par l'ADEME. Et donc vous avez ce qu'on appelle la biomasse traditionnelle, c'est-à-dire en fait le bois énergie. Mais si vous êtes dans un pays en voie de développement, on parle à ce moment-là de bois de chauffage ou de bois de feu. La biomasse moderne qui va correspondre à l'ensemble des biocarburants. Et donc là, vous avez les deux principaux usages de la biomasse à finalité énergétique. Il est intéressant de noter que dans ce camembert, à l'exception de l'énergie géothermique, toutes les autres sources d'énergie sont directement ou indirectement des produits de l'activité solaire. Si la Terre n'était pas irradiée en permanence par le Soleil, l'ensemble des flux donc aériens pour l'énergie hydraulique ou dans l'eau de mer disparaîtrait instantanément. Donc il n'y a qu'une seule source, en fait, qui est strictement indépendante du Soleil, c'est la partie géothermie. Si maintenant vous voulez exprimer en consommation de carbone, en considérant à la fois la consommation chimie et la consommation énergie, vous avez en l'année 2005, sur la base de travaux qui ont été faits aux États-Unis donc par l'American Chemical Society, fait en parallèle et convergent heureusement en France par le MINEFI, vous avez eu en 2005 une consommation de 9 milliards 500 millions de tonnes de carbone. Je parle de l'atome à ce moment-là. Et vous voyez qu'il n'y a que 5% qui est utilisé en chimie. Le reste, l'essentiel, passe en énergie. Si maintenant vous voulez ventiler exactement le même tableau en usage carbone fossile et carbone biologique, vous voyez que vous retrouvez donc à ce moment-là un carbone biologique qui est plus important. Donc vous retrouvez les 12,9 précédent. Et par contre, en chimie, au niveau mondial, il n'y a que 30 millions de tonnes de carbone comparé aux 369 qui viennent essentiellement du pétrole et du gaz. Un siècle plus tôt, la ressource aurait été à ce moment-là du charbon, bien entendu. Le point important à ce stade-là est qu'il y a des projections qui ont été effectuées dans différents pays jusque dans les années 2000, pour la cible des années 2030, et que ce tableau-là va varier, il est prévu qu'il varie, avec une augmentation de le retour de la part liée au carbone biologique. Alors j'emploie le mot biologique à dessein, c'est du carbone d'origine biologique, mais bien entendu, quand vous comparez les atomes de carbone, ils sont au plan chimique strictement équivalents. La seule différence, c'est que ceux qui sont biologiques, d'origine biologique, sont plus chauds, parce que quand ils sont passés dans l'atmosphère, ils ont été enrichis à nouveau en C14, et donc c'est le moyen que l'on a pour distinguer chimiquement dans un objet de la vie courante si l'objet est d'origine fossile ou vient d'un carbone d'origine biologique. Le point majeur dans cette discussion est de regarder les flux au niveau terrestre, indépendamment des pays et des niveaux de développement. Donc cette figure qui peut vous sembler un peu complexe représente tout simplement les différents stocks de carbone qui sont présents à la surface du globe, surface au sens large du terme. Donc vous avez 5 stocks, les océans, les sols, le carbone fossile qui est dans le sol mais qui est une ressource particulière que l'on va extraire, la végétation qui est portée par le sol, donc je parle à ce moment-là bien entendu de tout ce qui est au-dessus de degré zéro, et l'atmosphère qui est le dernier compartiment. Ces compartiments, ramenés bien entendu à l'échelle de la planète, ont des contenus qui sont gigantesques, puisqu'on parle à ce moment-là en gigatonnes, alors précédemment on était simplement en millions de tonnes. Il y a 4 compartiments qui doivent nous préoccuper, en fait, sont le carbone fossile, parce que c'est celui sur lequel, vous avez vu le tableau précédent, en fait, notre société, notre civilisation est fondée. Il y a les 2 compartiments de la végétation et du carbone dans le sol, et dans le carbone dans le sol, en fait, vous retrouvez tout le carbone biologique, donc provenant de l'expression soit de micro-organismes, soit de plantes. On va considérer que la fraction animale est négligeable dans ce jeu-là. et qui va progressivement se décomposer. Donc on va dire que la végétation, sens large, c'est du carbone dans des structures vivantes. Le carbone qui est dans le sol est un carbone qui est en cours, dans des molécules qui sont en cours de décomposition. Le dernier, donc, c'est la partie atmosphérique. C'est essentiellement du CO2, mais bien entendu, dedans, on trouve aussi du méthane, dont nous aurons l'occasion de parler plus tard. Les stocks sont très importants, mais ces stocks, en fait, sont liés entre eux. Ces différents compartiments sont liés entre eux. Donc, vous voyez qu'il y a deux compartiments qui émettent, la végétation, 1,6 gigatonnes de carbone, avec une imprécision qui est très grande. Ce sont les travaux qui ont été faits par le GIEC, qui ont été publiés il y a, en 2007. Le carbone fossile, lui, du fait de nos procédés d'extraction, génère chaque année 6,4 gigatonnes de carbone, donc qui partent in fine dans l'atmosphère sous la forme de CO2. Et le milieu vivant va être capable d'en reprendre, soit dans la végétation 3,1 gigatonnes de carbone, un deuxième piégeage a lieu dans les océans, une partie de ce piégeage se fait sous la forme de carbonate de calcium, et c'est la seule forme stable et définitive de piégeage du CO2. Toutes les autres formes sont des formes objectivement instables. Et puis, vous avez le carbone atmosphérique. Et donc, quand vous regardez l'ensemble de ces compartiments et de ces flux, vous voyez qu'on génère en gros chaque année 8,8 gigatonnes de carbone, que la végétation est capable d'en absorber 3, les océans et les mers un 7, et que l'atmosphère s'enrichit chaque année donc de 3,2 gigatonnes de carbone. Donc c'est cet accroissement de la teneur en CO2 dont il a été démontré qu'il était responsable du réchauffement climatique et donc de tous les effets induits qui ont été décrits dans les travaux du GIEC et qui ont été aussi présentés par exemple par Nicolas Stern dans cette assemblée. Le point essentiel, c'est que si l'on voulait maintenant stabiliser cette teneur en CO2 dans l'atmosphère, ben, il ne faut pas annuler les prélèvements en carbone fossile, mais il suffit simplement de réduire la libération de CO2 provenant de carbone fossile dans le milieu atmosphérique, en gros 50% de sa valeur, avec toute l'imprécision liée à l'incertitude que l'on peut avoir sur ces chiffres. Donc, l'autre paramètre, bien entendu, c'est augmenter les surfaces pour la photosynthèse et être capable ainsi de piéger du carbone sous la forme de végétation. C'est un compartiment au sens large où j'englobe toute la partie vie à la surface de la biosphère. Le hic dans cette opération-là, c'est quand vous réalisez cela, le carbone organique qui est dans le sol risque d'avoir des cinétiques de décomposition accélérées. Et donc, vous pouvez avoir à ce moment-là vous pourriez avoir à ce moment-là un dégagage à partir des 1 500 gigatonnes de carbone présentes dans le sol pour renforcer le compartiment atmosphérique. Et vous voyez que, faisant un calcul simpliste, vous avez quand même deux fois plus de carbone dans le sol que vous n'en avez dans l'atmosphère. Donc le péril existe réellement. Il y a un verrou qui est comment trouver de nouvelles surfaces et un danger, si on utilise ces surfaces de manière inconsidérée, qui est de provoquer un basculement tout simplement parce qu'on a du carbone organique dans le sol. Alors, pardon. Dans cette figure, l'élément essentiel, bien entendu, c'est la partie photosynthèse, si on veut travailler sur du carbone renouvelable. Donc, cette photosynthèse, elle existe sous un schéma absolument standard. Alors, je crois que la lamelle plasmatique, la membrane du chloroplaste disparaît un petit peu. Et ce schéma est simplement destiné à vous montrer que sous l'action du soleil, donc qui va irradier ces chloroplastes, vous avez un ensemble de systèmes photosynthétiques qui vont provoquer d'abord une rupture de la molécule d'eau. Et le premier événement de la photosynthèse, il faut en permanence l'avoir en tête, c'est une libération d'oxygène. Ensuite, vous avez une cascade électronique donc qui permet progressivement de récupérer de l'énergie. On ne récupère pas de l'énergie, on le récupère sous la forme de NADPH. Ce NADPH part ensuite, donc c'est une forme réduite, part ensuite dans un certain nombre de systèmes. Il a deux systèmes de sortie majeurs. Il y en a un premier qui est classiquement oublié, c'est celui qui permet de faire de l'hydrogène. Donc il y a une capacité à partir des chloroplastes de produire directement de l'hydrogène, dont je vous parlerai ensuite. Et ensuite, il y a une voie, qui on va dire la voie royale, la voie majoritaire, c'est celle qui consiste à partir dans le cycle de Calvin. À ce moment-là, vous avez une fixation du CO2, le NADPH part sur le cycle de Calvin, fixation du CO2, et vous avez élaboration des molécules dites de réserve standard, donc amidon, saccharose, lipine, lidocellulose. Je cite simplement les composés majeurs de réserve. Il est d'usage, dans certains milieux, en particulier dans ceux qui travaillent sur le photovoltaïque, de comparer la mauvaise efficacité de la photosynthèse contre l'excellente efficacité électronique des panneaux photovoltaïques de dernière génération. Alors, il faut comparer des choses qui sont comparables, sinon, forcément, les rendements n'ont aucun sens, puisque c'est toujours un pourcentage. La conversion théorique maximale d'énergie, donc du rayonnement actif, tel qu'on la récupère avec du NADPH dans un chloroplaste, c'est 27%. Ça, c'est un calcul théorique standard de thermodynamique. Après, on sait que dans ces 27%, il y en a, en fait, la lumière qui est envoyée sur les chloroplastes, il y en a que, en raison de la capacité d'absorption des chloroplastes, il n'y en a que 45% qui est efficace. Ce qui veut dire que la conversion photosynthétique du chloroplaste a un rendement de 12%, qui est, à ce moment-là, son rendement, c'est la seule valeur qui est comparable aux panneaux photovoltaïques, donc de couche mince, de génération actuelle présente sur le marché. Les nouveaux panneaux ont effectivement des valeurs plus élevées, mais donc vous voyez que ceux qu'on utilise actuellement sont à 12% dans le même ordre de grandeur que ceux que l'on peut trouver dans un système photosynthétique. Quand ensuite vous faites l'accumulation en amidon, saccharose, etc., dans un organe de réserve, le rendement descend effectivement à 1 ou 2%, ce qui est le rendement classique dans une parcelle agricole, mais tout simplement parce que vous avez à ce moment-là une forme de stockage. Donc si vous voulez comparer de la photosynthèse à du photovoltaïque, il faudrait regarder complètement le photovoltaïque une fois que l'énergie électrique a été générée et complètement stockée sous une forme stable comme peuvent l'être des tiges ou des grains de blé. Le dernier point dans cet élément de contexte, c'est la transition alimentaire. Il ne faut pas oublier que le carbone biologique, qui est du carbone comme les autres, a comme première finalité de répondre à nos besoins nutritionnels, nous en particulier l'espèce humaine, puisque nous sommes des animaux hétérotrophes, et donc nous avons besoin, à la base, de consommer du carbone organique sous une forme réduite que nous allons oxyder par un processus d'oxydation standard, et c'est ce qui nous permet de vivre. Et dans cette transition, et dans ce contexte, nous avons une transition alimentaire qui est motivée par deux facteurs. Le premier facteur, c'est l'augmentation démographique, puisqu'il est prévu que nous soyons entre 7 et 10 milliards de personnes en 2050. Le deuxième facteur, c'est l'augmentation du niveau de vie, qui en Europe ne devrait pas être certes foudroyant, mais dans des pays comme l'Inde, la Chine, sont des éléments moteurs de la société. Et donc, ça veut dire que des individus vont modifier progressivement leur... D'abord, répondre complètement à leurs besoins, alimentaire et deuxièmement modifier leur régime alimentaire. Donc les projections qui ont été faites par des chercheurs en particulier de la FAO, Bruce Mann pour le citer, montrent que la production agricole doit augmenter de plus de 70% en 2050 pour répondre aux besoins des populations qui seront à ce moment-là présentes. Ça, c'est un verrou, mais en fait, ce n'est pas du tout un verrou pour la chimie verte du carbone renouvelable. C'est une opportunité merveilleuse parce que toute l'espèce humaine ne consomme que de l'amidon, du sucre, et consomme relativement peu de composés de type lignocellulose et les tissus de soutien des plantes. Les seuls concurrents que l'on ait, et en partie seulement, sont les animaux ruminants qui consomment de la lignocellulose pour se nourrir. Mais c'est un élément, c'est une variable d'ajustement. Donc pour nous, monogastriques, comme le porc et la volaille, nous consommons des éléments, des matières premières végétales. Il y a un travail qui a été publié par Miles en 2000, repris par l'équipe de Catherine Esnouf, et qui montre comment, au niveau moyen, au niveau mondial, la production mondiale à l'heure actuelle est de 4 600 kilocalories par habitant et par jour. Mais en fait, il y a des pertes. Alors, il y a des pertes après récolte. Ça, c'est essentiellement le cas des pays en voie de développement qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour récolter et stocker proprement cette matière première organique. Ensuite, il y a un deuxième élément de transformation qui n'est absolument pas une perte, mais c'est pour nous un changement d'état qui est choisi par nos régimes alimentaires, par nos préférences, c'est la transformation en produits animaux. Il faut savoir que quand vous consommez des produits animaux, pour une calorie animale in fine que vous allez consommer, il en aura fallu entre 3 et 7 d'origine végétale pour que l'animal en question croisse. Donc on dispose là d'une variable d'ajustement simplement en modifiant la quantité de produits animaux. Et le dernier point qui est surtout présent dans les pays dits développés sont des pertes entre le moment de l'achat et le moment de la consommation. Ce qui fait que partant en moyenne de 4600 kilocalories au niveau mondial, on arrive à une valeur finale de 2000 calories. Dans l'intervalle, nous avons une variable d'ajustement qui est l'utilisation pour des productions animales, mais nous avons une ressource de biomasse, c'est en particulier toutes les pertes que nous avons dans les pays développés, et donc qui peut constituer une source de carbone sous une forme qui est toujours activée énergétiquement, donc c'est du CHOH en grande majorité, et qui pourrait être utilisée à des fins de chimie verte. Alors, quand on parle de carbone biologique, on a coutume de considérer qu'il s'agit d'une opération simple, c'est ce qu'on présente au plan pédagogique, avec une production agricole qui peut être variable en fonction des conditions climatiques, donc pas nécessairement complètement prédictible, et ensuite des opérations de transformation et de distribution, ou du fait de la conservation de masse, ce qui rentre va sortir, et donc on a toujours des aliments. Donc ce schéma, il est faux, puisque vous avez vu précédemment que déjà, il y a des pertes qui ont lieu tout au long du dispositif, et ces pertes sont fonction du degré de développement. Je ne suis pas convaincu que les pertes qui ont lieu dans les pays occidentaux puissent directement être mises en regard du degré de développement. Donc il ne faut pas simplement considérer les filières sous un aspect additif, il faut considérer le système alimentaire. Ce système alimentaire a été défini, en particulier par Raston 1, progressivement, et donc c'est un réseau interdépendant d'acteurs, mais dedans on trouve des entreprises, des institutions financières, des organismes publics, localisés dans un espace géographique donné, et qui participent à la création de flux et de services orientés vers la satisfaction des besoins alimentaires d'un ou plusieurs groupes de consommateurs. Cette description, vous pouvez l'utiliser complètement pour toutes les autres applications dans lesquelles du carbone sont impliqués jusqu'au carbone fossile. Et donc, vous pouvez avoir une représentation complète de ce jeu du carbone biologique et du carbone fossile à l'aide de ce schéma qui peut vous paraître peut-être compliqué, surtout pour ceux qui sont au fond, mais c'est exactement ce dont je vous ai parlé. Vous avez des systèmes agricoles, algo et forestiers, je vais vous expliquer après pourquoi, où ils sont, qui produisent de la biomasse agricole, forestière et algale, elle manque là. Ça va partir dans une bioraffinerie, ça va donner des produits agricoles intermédiaires de première génération, on va dire de la farine, du sucre, qui vont être modifiés par combinaison d'opérations enzymatiques, chimiques et fermentaires, donner des produits agricoles intermédiaires de seconde génération, et qui sont formulés pour former des aliments, mis en forme, formulés et aussi mis en forme pour des matériaux, ou formulés pour la partie chimie. Le devenir de ces produits-là est soit l'enfouissement, donc qui est une opération où on soustrait complètement au cycle du carbone la matière qui serait enterrée, mais en général il s'agit d'une décomposition, donc une bioassimilation, une production de CO2. Ça, c'était la matière. Vous avez les mêmes échappements ici qui vous permettent de faire de l'énergie, soit à partir de la biomasse agricole et forestière directement, vous avez là en particulier le bois énergie, que vous allez pouvoir transformer aussi par des procédés thermochimiques, les produits agricoles que vous allez récupérer, en fait, les fractions inutilisables, je pense en particulier à la lignine, et ça contribue aux bioénergies qui font partie du bouquet énergétique. Alors, le sablier qui est présent ici est un sablier destiné à montrer qu'en fait, là, vous avez toutes les zones de contact avec le carbone fossile, puisque là, il y a concurrence et complémentarité entre les différentes sources. Là, on a besoin du carbone fossile dans les opérations de biosynthèse, dans les opérations d'hémisynthèse. Là, on retrouve le carbone fossile dans la partie chimie pour la transformation, et vous en avez dans l'amont, agricole et forestier, au niveau des intrants. Vous en avez au niveau de l'eau, puisque vous avez besoin d'énergie pour récupérer l'eau, et j'ai mis en rouge le soleil parce que pour le carbone biologique, c'est le moteur de cette partie-là. La biomasse qui est produite ici, pour ne pas rendre le système plus compliqué, donne aussi, si vous décidez de faire des produits animaux, des sous-produits animaux, des déchets agricoles, des déchets agro-industriels et ménagers qui vont rentrer dans la bioraffinerie et qui peuvent suivre cette voie. Et donc, vous pouvez, à partir de ce moment-là, faire un cycle du carbone qui est beaucoup plus simple que celui qu'on peut avoir, par exemple, avec des terres rares, puisqu'il n'y a pas besoin de collecter des terres rares, la décomposition de la matière organique fournissant du CO2 qui ensuite est distribué de manière homogène sur l'ensemble des récepteurs disponibles. Donc on a un schéma qui est complexe en fait. D'une part, parce que les opérations successives, chacune d'entre elles ici n'est pas linéaire, c'est-à-dire ne répond pas directement avec une relation linéaire quand on veut la piloter. Le deuxième élément que l'on retrouve bien entendu ici, c'est le caractère aléatoire des productions biologiques. Et le troisième élément qui rend en fait le système complexe, c'est que quand vous êtes dans un système agricole, ici, vous avez, du fait de l'assolement à des rotations agricoles, plusieurs combinaisons possibles. Dans la bioraffinerie, vous allez combiner ces différentes biomasses générées une à une pour les traiter, qui vont générer différents produits, mais la bioraffinerie a cette particularité de pouvoir ajuster les niveaux de production de chacun des segments de sortie. Donc vous n'avez pas du tout un système additif, linéaire, descriptible, du fait de ces opérations de combinaison et de substitution présentes en différents endroits et de l'interpénétration des systèmes carbone fossile, carbone biologique, sur leurs différentes cibles. Donc vous avez les trois éléments de contexte, la chimie, l'énergie et l'utilisation humaine, mais ce fonctionnement n'est pas durable. Il n'est pas durable puisqu'à l'heure actuelle, il ne répond pas aux besoins de la société, puisqu'il ne pourrait pas être étendu dans son fonctionnement à l'ensemble du globe. Le mode de production et de consommation qui existe dans les pays développés nécessiterait deux fois la surface de la Terre si on voulait que l'ensemble des populations mondiales bénéficient du même régime alimentaire que le nôtre. Premier point. Donc ça, c'est la limite dont nous ne nous rendons pas compte, nous, dans les pays occidentaux, d'autant plus qu'en 2050, les populations ont augmenté. Ce fonctionnement n'est pas durable, d'autre part, puisqu'il épuise de manière irrésistible le carbone fossile dont les réserves sont par principe limitées et pour un coût donné seront de plus en plus chères dans l'avenir. Il n'est pas durable puisqu'il contribue à enrichir l'atmosphère en CO2. Or, le GIEC a calculé qu'il fallait stabiliser la teneur en CO2 à 450 ppm, Donc, de toute façon, on ne peut pas continuer à relâcher du CO2 dans l'atmosphère, faute de quoi on se lance directement dans l'effet de serre et dans des événements climatiques imprévisibles. Il n'est pas durable parce qu'on ne peut pas aller chercher la Terre de manière inconsidérée, parce que sinon, on a un risque de déstockage rapide. Et ensuite, quand on veut mettre ces ensembles-là en synergie, en combinaison, il y a déjà des excès des tensions qui apparaissent entre les demandes de rendement, les surfaces, et la capacité des écosystèmes à fournir d'une part des biens marchands, ceux dont on a parlé jusqu'à présent, mais aussi des biens non marchands, qu'on appelle les services écosystémiques, et qui sont nécessaires pour que la biosphère continue son existence. Donc, nos sociétés à la surface du globe, la population mondiale, a à l'heure actuelle trois défis qui se présentent à elle. Le premier défi, et qui est majeur, c'est répondre, bien entendu, aux besoins alimentaires pour les individus en 2050, sachant que certaines populations sont en situation de croissance démographique, sont en situation d'augmentation du niveau de vie, donc on va changer qualitativement et quantitativement leurs demandes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est limiter et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour tendre à un plateau de 450 ppm à terme de CO2 dans l'atmosphère. Un certain nombre d'engagements ont été pris, de réduire en particulier dans les pays européens par un facteur 4 ces émissions-là. C'est le facteur 4 de la loi de programme, de la loi d'orientation de la politique énergétique française. Vous avez vu que dans les autres pays, il y a un certain nombre de réticences pour adopter le même type de comportement. Le troisième point, c'est élaborer des produits de substitution. Donc, veut dire mordre sur les usages des hydrocarbures fossiles, non pas par principe, mais tout simplement parce qu'on sait que le prix du carbone, dans ce cas-là, va devenir de plus en plus élevé. quatrième défi. On sait que le changement climatique peut se produire, va se produire déjà, et donc adapter nos ressources naturelles sous la contrainte du changement climatique. Et nous avons quatre finalités de ce fait-là, au-delà des quatre défis. Nous avons trois finalités. Favoriser et non pas assurer une indépendance énergétique, donc c'est rentrer le plus possible pour des pays comme la France, comme l'Europe, qui n'ont pas de réserve de carbone fossile, rentrer du carbone biologique, mais vous voyez, de manière minoritaire dans le mix énergétique, initier un développement neutre au plan carbone, et le troisième terme qui est revenu sur la table depuis quelques années, c'est en profiter pour initier une bio, une agro-industrie, qui va être un enjeu de restructuration donc des filières agricoles et industrielles concernées, de relocalisation et de réindustrialisation. Alors le « re » n'est pas nécessairement nécessaire, n'est pas nécessairement présent dans ces phrases, parce que quelquefois, on n'avait pas assuré, et il y a d'autres endroits où on considère qu'on va laisser la production agricole à l'extérieur, dans des pays à faible coût de main-d'œuvre, et la transformation se passera dans des parties européennes. Voilà les quatre défis majeurs que nous avons avec les trois sorties. Et donc, on a dans la littérature trois sorties, trois scénarios qui sont présents et qui continuent à perdurer. Le premier, on va l'appeler Fortissimo, ben c'est tout simplement le texte fondateur des trois religions monothéistes qui, à l'époque, ne connaissait sans doute pas les limites de la planète Terre, de Gaïa, et donc qui nous dit « Multipliez-vous, remplissez la Terre et l'assujettissez complètement. » C'est dans le texte, c'est le texte de la Genèse. Au moment où ça a été rédigé, enfin quelques milliers d'années avant, il y a une analyse qui a été faite par Cottrell, puisqu'il est intéressant de savoir comment un texte a pu être écrit, même s'il est d'inspiration divine, dans quel contexte ça a été fait. En fait, il y a une analyse qui a été faite du fonctionnement de l'Égypte au moment des pharaons. Et l'Égypte, au moment des pharaons, ce n'était que 3 à 4 millions de personnes dans la vallée du Nil. Il y en avait 95% qui se consacraient à l'agriculture et 5% qui étaient impliqués dans l'administration. Il n'y avait pratiquement pas d'armée parce que c'était un pays isolé au plan par les déserts. L'administration et 5% dans la construction des pyramides. Et à ce moment-là, le système peut fonctionner de manière complètement autonome, de manière complètement stable, parce qu'on a une bonne répartition de la photosynthèse sur une grande surface. Alors, au-delà du texte de la Genèse, vous pouvez trouver exactement cette formulation-là, mais différente, on va dire, au niveau de la formulation, mais l'idée se retrouve la même. C'est ce que vous retrouvez dans des écrits de Jean-Baptiste C. ou de Karl Marx aussi, qui considère que les limites de la planète Terre ne sont pas à prendre en compte. Après, vous avez un deuxième scénario, qui est le scénario de la décroissance. Alors, scénario de la décroissance, il est apparu dans l'année 72, quand il y a eu la conférence de Stockholm. Il a été repris par le Club de Rome, qui a publié à ce moment-là son ouvrage « Halte à la croissance et protection de l'environnement ». Et il correspond, en fait, à la théorie de Georgescu Roegen, un Roumain, et il reprend tout simplement la thèse malthusienne. Si la démographie galope, la limite géométrique de la Terre sera insuffisante, donc il faut réduire la population. C'est le premier paramètre qu'ils ont en tête, réduire la population. Et donc, sur cette base-là, a été construit le concept de bioéconomie. Donc, c'est la gestion durable des ressources naturelles, renouvelables ou non, donc le carbone fossile en fait partie, dans l'ensemble des écosystèmes, et en considérant bien les différentes étapes de production et de consommation. La formulation moderne de la bioéconomie, vous la trouvez dans l'expression d'un certain nombre de partis politiques français et européens. Il parle à ce moment-là de décroissance sélective et équitable. La troisième voie, sur laquelle on peut dire qu'il y a plus d'individus à l'heure actuelle qui travaillent, c'est celle du développement durable. Elle fait suite aux travaux en 1987 de la commission Brundtland, qui avait défini le développement durable et qui ensuite l'a transformé progressivement dans la responsabilité sociétale des entreprises. Ça a été repris, malheureusement, on va dire, parce que la bioéconomie est un mot valise, ça a été repris dans un certain nombre de formulations, en particulier européennes, allemandes, anglaises, hollandaises, et on parle de bioéconomie. Mais la bioéconomie, à ce moment-là, a un pilier majeur qui est la biotechnologie. C'est en ce sens-là que le mot a été repris et qu'il peut y avoir de la confusion dans les esprits. Si maintenant vous prenez Rio plus 20, donc la reproduction de Rio 1992, le sommet de la Terre, à l'heure actuelle, on parle d'économie verte, donc c'est améliorer le niveau de vie, donc on ne parle pas d'augmentation du PIB, d'augmenter le niveau de vie dans les pays en voie de développement, sans augmenter leur empreinte écologique, et en même temps maintenir le niveau de vie dans les pays développés tout en réduisant leur empreinte. Donc vous avez tous les éléments essentiels. Le point important, c'est qu'on ne vous parle plus de PIB ou de PNB dans ce jeu-là, et on vous parle de satisfaction des besoins, parce qu'on parle en fait de niveau de vie. Alors, avoir ce discours global est intéressant, mais en fait, une des difficultés dans ce jeu est que l'on va devoir manipuler des échelles locales et globales en permanence. Donc, vous avez des échelles de temps et d'espace. Et donc, si vous prenez des opérations de transformation, vous allez avoir l'opération unitaire, vous allez réaliser dans une usine, le procédé, qui est l'ensemble de la chaîne de transformation, l'écologie, que s'agisse d'agroécologie et d'écologie industrielle, c'est-à-dire comment les différentes activités de production sont localisées les unes à côté des autres et interagissent entre elles. Vous avez ensuite le bassin d'approvisionnement et le bassin de commercialisation qui est figuré ici sous la forme de la planète Terre cachée derrière. Et un certain nombre de variables que vous pouvez utiliser, donc l'eau, l'énergie, l'économie d'atomes, qui sont caractéristiques de ces éléments-là. Et donc, vous voyez que les échelles vont varier, si vous passez simplement la base des temps, ça va varier de la seconde ou les minutes, jusqu'à la dizaine d'années quand vous considérez l'ensemble du globe, tout simplement pour que les molécules diffusent et que l'ensemble se stabilise. C'est exactement la même chose sur la partie espace, que vous allez travailler soit en local, soit jusqu'à un niveau plus global. Et donc la difficulté de cet exercice réside dans le fait qu'on va avoir différentes échelles de décision, mais je parle à ce moment-là de décision d'opérateur. Il ne s'agit pas de mécanismes biologiques ou physico-chimiques intrinsèques, on reviendra ensuite dessus. Donc ça, c'est une difficulté qui est pratiquement l'articulation du local et du global. Donc la biomasse, à ce moment-là, peut rentrer dans le jeu. Elle peut rentrer dans le jeu comme une source de carbone d'origine biologique, je n'ai pas dit renouvelable pour l'instant, ou j'espère pas. Donc il s'agit de matière organique carbonée qui a été rechargée quand c'est passé par le cycle de la photosynthèse, et donc on est passé de CO2 à CHOH globalement comme formule, donc elle est rechargée énergétiquement et elle peut rentrer dans une cascade d'opérations soit d'oxydation dans les cellules de tous les organismes vivants, soit partir en chimie et in fine produire donc du CO2. Et donc les sources sont très nombreuses. Donc vous avez les produits d'origine agricole, forestière, aquatique, l'ensemble des coproduits, je vous ai parlé de la lignocellulose, mais bien entendu il y a tous les coproduits venant d'élevage industriel, et tout un ensemble de déchets organiques, et en particulier les déchets urbains, les déchets de boue d'épuration, de stations d'épuration, les ordures ménagères, etc., qui sont autant de ressources de carbone organique toujours activées énergétiquement, puisqu'il est à un grade CHOH. Les sources moléculaires, il y a la biomasse, mais ensuite il y a les sources moléculaires. Donc les quatre principales, c'est le saccharose, l'amidon, la lignocellulose et les lipides. Donc les lipides sont un peu à part, parce qu'ils nous donnent tout de suite ils sont constitués d'éléments qui sont très proches des produits dérivés du pétrole, puisque vous avez des chaînes d'acides gras qui sont, on peut dire des polymères, mais du CH2 N fois, le N variant entre 8 et 24. Donc là, on a des molécules qui sont très proches. Et vous avez les protéines, caoutchouc naturel et micro-constituants, qui sont des composés moins importants, mais qui sont très utilisés quand même dans la partie chimie verte, les protéines étant absolues. Protéines, caoutchouc naturel et micro-constituants n'étant jamais utilisées, bien entendu, dans les usages énergétiques. Mais ces différentes molécules ne se présentent pas, et ça, c'est l'avantage énorme du pétrole ou du gaz, sous une forme complètement libre, avec une facilité de séparation des molécules, même si nos amis pétroliers trouvent que c'est très compliqué de travailler avec du pétrole ou avec un goudron, se présentent sous une forme organisée dans des organes de réserve ou dans des tissus de soutien. Un grain de blé est une structure particulièrement compacte de molécules qui sont liées les unes aux autres, essentiellement par des liaisons faibles, de type van der Waals, covalente ou ionique. Et un grain de blé, en fait, mis dans un milieu aqueux, va être capable de gonfler, mais sans la présence d'enzymes, va rester rigoureusement stable, et donc une structure stable, physique, physiquement, qui ne va pas libérer les différentes molécules constitutives. Le deuxième élément, c'est quand vous prenez la lignocellulose, mais on pourrait avoir la même présentation sur l'amido, vous avez différents niveaux de structure. Donc si on part de la cellulose, donc la partie qui est en haut à droite, vous avez ici des chaînes de cellulose qui sont organisées dans des cristallites. Ces cristallites vont former des fibrilles. Ces fibrilles vont s'assembler dans une paroi végétale. Et si vous êtes dans une plante, on va dire annuelle, va vous donner des tiges, des fibres, la plante globale, donc c'est la fonction où ces polymères assurent un tissu de soutien, mais vous avez une autre fonction avec lignification à ce moment-là, et vous avez toutes les plantes lignifiées, dont en particulier l'ensemble des ligneux. Donc vous avez différents niveaux, différentes échelles d'organisation de la matière. Le point important, c'est qu'il ne peut pas y avoir libération spontanée de la cellulose pour des raisons de liaison chimique. Et deuxième élément, quand vous augmentez l'échelle d'organisation, en fait, la disposition des éléments les uns par rapport aux autres crée des propriétés que vous ne pouvez pas déduire de la composition dans l'échelle précédente. Donc vous avez ce qu'on appelle un matériel complexe dont les lois ici d'association détermine les propriétés. Pour résoudre ce problème de l'adhésion, de la cohésion de ces matériaux, ont été mis en place des bioraffineries. Donc une bioraffinerie, c'est un lieu où on transforme de la matière condensée qui est destinée à libérer les éléments constitutifs. Donc c'est quelque chose qui est très ancien. Première génération, ce n'était rien d'autre que de la meunerie, par exemple, ou de l'huilerie, on récupère de l'amidon, des fibres, des lipides. Mais au fur et à mesure que les procédés ont vieilli, vous avez un enrichissement, si on peut dire, dans la capacité à déconstruire ces éléments-là, et on sait à l'heure actuelle très facilement récupérer les acides gras, les glycérols, les hexoses, les pentoses, etc. Donc les monomères constitutifs de la biomasse, qui sont à ce moment-là des éléments chimiques qui permettent de discuter avec nos amis qui travaillent sur du carbone fossile. Il existe même une étape supplémentaire, donc, qui est la gazéification, qui permet d'obtenir un mélange CO-H2. Et ensuite, vous faites de la recombinaison. Donc, vous recréez progressivement les molécules qui vous intéressent. Donc, c'est une opération de Lego. La biomasse, c'est un ensemble de Lego organisé d'une certaine façon. Quand on fait en bioraffinerie, on casse la belle structure de Lego et on la transforme dans un autre assemblage, mais qui correspond tout à fait à nos intérêts. Donc, cette adaptation à nos besoins, elle peut se faire de deux manières différentes. La première, c'est l'approche structurale, c'est la plus simple que l'on a immédiatement en tête, qui est de dire, est-ce qu'on peut retrouver dans la biomasse des molécules qui seraient identiques à celles que l'on trouve dans le pétrole, dans le charbon, dans le gaz ? Non, il n'y a que deux molécules qui correspondent grossièrement. C'est d'une part l'alinine quand elle est sous forme fragmentée, et le deuxième élément que je vous ai cité tout à l'heure dans la photosynthèse, c'est la partie hydrogène. On a là la capacité de générer une molécule qui est strictement utilisable et utilisée donc dans des procédés, on va dire, de chimie organique traditionnelle. La seconde approche, c'est celle qui l'a emportée en fait, c'est l'approche fonctionnelle où on explore les molécules existantes, leur assemblage, et on regarde les fonctions que l'on cherche à créer par ces molécules et donc les modifications qu'il va falloir leur apporter par des voies physiques ou chimiques pour y arriver. Dans ce jeu-là, on dispose de tout le capital cognitif, donc de la chimie organique standard, donc c'est l'hémisynthèse, et on dispose de tout l'ensemble biotechnologie verte et blanche dont je vais vous parler après. La limite dans cet exercice, c'est que tout simplement, l'exercice commençant maintenant, on n'a pas l'acquis qui a été fait en chimie du carbone organique sur la connaissance des relations, structures, propriétés. Ça, c'est le premier élément. Propriétés physico-chimiques, j'entends. Ensuite, il y a les propriétés, le passage des propriétés physico-chimiques aux propriétés d'usage. Là, c'est exactement la même difficulté que celle qu'ont les chimistes organiciens quand ils veulent déterminer la propriété d'usage. Les règles d'assemblage, de formulation sont des règles empiriques, pragmatiques, et donc il n'y a pas de difficulté particulière à y arriver. Alors, je vais prendre un exemple simple pour illustrer cela, c'est celui de l'énergie. Ce que l'on sait produire par la biomasse, donc là, c'est la représentation simple du contenu énergétique des molécules en mégajoules par kilogramme, avec, bien entendu, au degré zéro, le CO2. Vous voyez que la biomasse et le glucose sont simplement entre 19 et 14. Donc, ce sont des composés, comparativement à toutes les molécules qui nous intéressent, de relativement bas contenu énergétique. L'hydrogène, l'échelle n'est pas linéaire dans ce cas-là, serait à 120 mégajoules par kilogramme. Sur la partie droite de cette figure, vous avez toutes les molécules d'intérêt. Les deux qu'il faut prendre comme référentiel, c'est le diesel et la gasoline, qui sont à 42,5, 42,8 globalement. Et ensuite, vous avez toute la gamme des produits que l'on sait obtenir à l'heure actuelle à partir du carbone d'origine biologique et donc qui peut rentrer en synergie, on va dire, avec du carbone d'origine fossile. Mais vous voyez bien le gap qu'il y a en termes de contenu énergétique pour monter jusqu'à une valeur intéressante pour nos moteurs qui serait de 40, 42, voire 45. On sait faire, bien entendu, un certain nombre de molécules qui sont même au-dessus, le méthane qu'on peut obtenir par méthanisation, des isopropylamines et des alcanes, mais ce sont des molécules qui, à l'heure actuelle, n'ont pas cette capacité à être produites en grande quantité. Donc, les ressources végétales à considérer, c'est jamais une plante, c'est jamais un organe, c'est un ensemble espèces, systèmes de production et procédés de transformation. La clé pour rentrer dans ce jeu-là, c'est de regarder la complémentarité et la compatibilité entre les usages alimentaires, alimentation humaine, animale, énergétique et chimique. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut déterminer les plantes qui vont être d'intérêt, mais c'est bien la plante dans son système de production en association avec un procédé de transformation. Donc le premier levier dont on dispose sont les biotechnologies végétales. Donc là, je vous donne les résultats d'un exercice, d'un atelier de réflexion prospective qui a été réalisé par l'IFPEN, l'INRA et le CIRAD, et qui a examiné les différentes solutions qui existaient en termes de biotechnologie végétale pour répondre à la demande dans ce domaine-là. Et donc, vous voyez apparaître des plantes qui ne sont pas, on va dire, très répandues. Ces plantes, elles sont intéressantes parce qu'elles sont capables d'être productives, elles sont capables de s'implanter sur des terres qui ne sont pas utilisées à l'heure actuelle pour des productions agricoles, je pense en particulier aux terres arides. Et dedans, on a toujours repéré une molécule intéressante. Donc, il y a des nouvelles plantes, premier point, donc il va poser des questions de domestication. Il y a un deuxième élément qui est très important, c'est toute la partie phytoremédiation. Les surfaces agricoles utiles de l'Europe sont de l'ordre de 155 millions d'hectares. Mais en fait, il existe un certain nombre de terres où, du fait d'activités industrielles précédentes, nous avons des pollutions soit de type organique, soit par des contaminants métalliques. Et ces terres ont été estimées en Europe à 50 millions d'hectares. Donc on a un tiers de terres industrielles. Alors, en fonction des pays et de la classification, de la typologie qu'ils mettent en œuvre, on va vous parler aux États-Unis de brownlands, de terres marginales, etc. Mais donc on a une ressource de terre, de surface de terre, disponible. Donc l'activité de phytoremédiation, par contre, est essentielle. Il faut que les plantes soient capables de vivre. Donc certaines sont capables de décomposer ces polluants organiques, en général par la rhizosphère. Les composés métalliques, les plantes ne savent pas les utiliser. Elles peuvent avoir une capacité d'exportation, mais c'est en général plutôt par une insolubilisation des composés métalliques, passage sous une forme strictement insoluble, et donc, de ce fait-là, disparition de la toxicité et la possibilité d'en mettre un autre. Le deuxième élément, toujours dans les ressources végétales, c'est l'utilisation d'algues, qui était considérée pendant très longtemps comme strictement anecdotique. Et en fait, là aussi, c'est la partie surface. C'est le paramètre surface qui motive. Donc, vous avez les macro-algues, algues brunes, algues rouges, algues vertes. Donc, ils sont des espèces donc, qui sont capables de produire de la biomasse avec des niveaux de production mesurés, non pas dans des champs expérimentaux, mais dans des champs réels, marins, bien entendu, de 30 à 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Donc, des productions qui sont énormes. Le coût, par contre, de ramassage, lui, est élevé. Et donc, ça fait partie des verrous qui sont disponibles. La deuxième ressource, c'est la partie micro-algues. Donc là, on n'est plus du tout dans les plantes. Ces micro-algues, donc, qui représentent une sorte d'eldorado, sont intéressantes d'abord pour leur productivité. Tous les exercices qui ont été réalisés donnent des productivités de l'ordre de 40 à 50 tonnes de matière sèche par hectare et par an, mais dans des conditions pilotes ou supra-laboratoire. On est loin des opérations industrielles, mais il y a déjà un potentiel. Et simplement pour que vous compreniez, jugiez rapidement, une production de céréales va vous donner en gros 10 tonnes de matière sèche récupérables chaque année au champ sous la forme de grains. Une production lignocellulose stricte de miscanthus ou de peupliers à rotation courte va vous donner entre 15 et 20 tonnes de matière sèche. Donc vous voyez tout l'intérêt qu'il y a dans les microalgues. Le deuxième intérêt qui est à considérer dans le cas des microalgues, c'est leur implantation potentielle sur des terres qui ne soient pas arables. L'inconvénient, c'est que la plupart des essais de microalgues qui sont faits à l'heure actuelle reposent sur des microalgues qui poussent en milieu salin. Donc on est obligé de s'intéresser à des zones littorales qui sont des zones très convoitées par l'ensemble des populations du globe. Donc c'est les deux éléments qui, à l'heure actuelle, justifient donc l'enthousiasme qu'il y a sur les microalgues. Et ensuite, enfin, des biotechnologies vertes. Bien entendu, on retrouve tous les outils des biotechnologies vertes standards, donc la variation génétique spontanée ou induite par mutagénèse, tilling, la transgénèse, l'hybridation, etc., avec des cibles qui ne sont pas à ce moment-là des cibles de résistance à des molécules chimiques, donc avec derrière tout le cortège de modifications des équilibres écologiques que l'on a pu observer ou attaquer dans le cadre des OGM de première génération. On a des cibles biochimiques qui portent sur la composition moléculaire directement, donc la structure fine des molécules, d'amidon, d'acide gras, de lignine. Dans le cas des acides gras, c'est rendre ces structures d'acide gras plus complexes, plus riches, plus réactives, en leur faisant porter des fonctions hydroxyles, des fonctions époxydes. Et un deuxième élément sont des cibles supramoléculaires, et donc changer l'anatomie des organes. Donc le rêve d'un certain nombre de personnes serait changer la morphologie du grain de blé, faire disparaître le sillon du grain de blé, de manière à révolutionner complètement la meunerie. Et dans l'opération de bioraffinerie, ça changerait effectivement la face du monde. Ça ne changerait rien à la qualité de la farine, bien entendu. Le deuxième levier, c'est la partie biotechnologie blanche, ou dite industrielle. Donc là, il s'agit de l'utilisation d'enzymes. Je ne vais pas y arriver, tant pis. Il s'agit de l'utilisation d'enzymes et de micro-organismes pour transformer de la matière. C'est l'endroit où il y a complémentarité entre les plantes et les micro-organismes, parce que les micro-organismes sont strictement hétérotrophes, donc pour fonctionner, ils ont besoin d'une source d'énergie, et donc vous retrouvez à nouveau la fonction d'appui sur de l'amidon, du saccharose ou de la lignocellulose pour faire fonctionner ces micro-organismes. Il y a, dans le cas des exercices sur les micro-organismes, à nouveau des échelles à prendre en compte entre le temps et la performance. La performance des micro-organismes, comme celle des enzymes, elle peut se définir sur trois caractéristiques. La cinétique, il faut que l'opération aille vite. Le substrat et son taux de transformation. On ne veut pas simplement récupérer une molécule, mais il faut que le substrat soit transformé le plus possible dans la molécule d'intérêt. Et le troisième point, c'est la concentration, le titre auquel on va récupérer cette molécule. Ce sont les trois critères clés. Et à l'heure actuelle, vous avez un décalage, quand vous lisez la littérature, vous pouvez avoir une très grande hétérogénéité entre des résultats qui sont présentés à l'échelle industrielle, donc à titre très élevé, cinétique, rapide, et taux de transformation du substrat élevé, contre des travaux faits à l'échelle du laboratoire, où ces critères-là ne sont pas pris en compte et on s'intéresse simplement à l'existence de la relation. C'est un peu la même question, en fait, que celle que l'on peut avoir dans le cas des microalgues. Donc, dans les biotechnologies blanches, on a les enzymes et les micro-organismes. Donc, les enzymes, on a dépassé depuis longtemps le stade où l'on allait chercher des enzymes dans le milieu naturel, donc ce qu'on appelait le balayage dans le milieu naturel à partir de la nature, où ils se continuent à l'heure actuelle, mais ils cherchent simplement par des approches de type métagénomique de manière à trouver des nouvelles séquences. En revanche, il y a, par la compréhension des relations structure-fonction sur ces enzymes et sur les protéines en général, se sont développées des méthodes d'abord de design rationnel, donc de mutagénèse dirigée où on changeait un acide aminé, des méthodes qui reposent sur l'analyse des méthodes combinatoires, c'est l'évolution directe. Et cet ensemble de méthodes se combine à l'heure actuelle, et pour vous donner simplement un ordre de grandeur, les tests de screening, quand ils sont faits à l'heure actuelle, sont faits sur des populations d'enzymes modifiées qui sont facilement de plusieurs centaines de milliers d'enzymes produites et testées sur une réaction précise. Donc il y a une puissance de production de nouvelles capacités de catalyse enzymatique qui provient derrière du bagage, on va dire, de la biologie moderne à haut débit, avec en particulier toute la capacité à modifier le matériel nucléaire. Le deuxième levier dans la biotechnologie blanche, c'est la partie fermentation standard, donc l'utilisation de saccharomyces pour faire de l'éthanol en fait partie. Donc cette partie-là, elle existe toujours. Sa difficulté, elle est simple, c'est qu'on va prendre en compte des mécanismes qui s'échellent, qui vont se dérouler sur plusieurs échelles. Et donc, si vous prenez les temps caractéristiques de ces mécanismes, donc exprimés en secondes moins 1, vous allez avoir des mécanismes d'expression d'enzymes, de lois d'action de masse, et vous voyez que vous avez facilement 6 à 8 décades dans les temps qui vont venir se télescoper, et ça renvoie à la figure précédente où je vous expliquais qu'on ne peut pas comparer facilement des travaux de laboratoire à des travaux de pilote, qu'on a besoin de l'ensemble de ces échelles, et que le jeu devient intéressant à partir du moment où on est capable de faire discuter ces différents niveaux d'échelle entre eux pour comprendre la nature des mécanismes et faire de l'optimisation. Donc il ne s'agit pas d'un transfert linéaire vers une partie plus basse. Le nouveau sujet intéressant est celui du génie métabolique. Donc dans un micro-organisme représenté sous cette forme-là, vous avez un substrat, vous avez un produit final. Et tout le jeu de l'ingénierie métabolique, ça consiste à couper le maximum de voies métaboliques dissipatives de manière à renforcer le flux de transformation du substrat en produit final. Mais au lieu de faire ce produit final connu d'origine biologique forcément, soit de l'éthanol ou n'importe quelle autre molécule, vous pouvez aussi rentrer dans ce micro-organisme des enzymes que vous avez créées par l'étape précédente et qui vont vous faire donc une voie métabolique complètement neuve dans un micro-organisme, évidemment, qui n'a plus aucune vocation à se reproduire et à assurer des fonctions biologiques standards. On parle à ce moment-là de biologie de synthèse. Donc la biologie de synthèse, ce n'est pas de l'ingénierie métabolique, c'est de l'ingénierie des composants et des systèmes pour produire des éléments vivants, c'est-à-dire capables de se reproduire, mais qui n'existent pas dans la nature. C'est une démarche d'ingénieur. Donc il y a une conception rationnelle in silico au départ, c'est ça le point essentiel, donc ça fait appel bien entendu à de la bioinformatique, ça fait appel à des simulations, ça repose sur les bases de données standards et la connaissance du métabolisme. Ensuite, on construit in vitro ce micro-organisme et on fait sa validation. La validation étant la capacité du micro-organisme ainsi produit à donner la molécule qui nous intéresse et avoir aussi une évaluation de son impact sur la santé, sur l'environnement et la société. La clé là-dedans, ce sont les flux métaboliques, donc c'est savoir comment les différentes molécules vont être progressivement transformées de manière à assurer des cycles qui soient les plus rapides et les plus productifs. Alors, il ne faudrait pas que vous sortiez de cette salle en ayant l'impression que les biotechnologies vertes et blanches se développent à côté, en parallèle, de la chimie organique standard. Non. Tout l'intérêt est justement d'avoir des combinaisons des deux, pas simplement au niveau de la formulation, mais avant. Donc, quand vous prenez de la biomasse, que l'on sait donc transformer, donc on part de CO2, on fait un mélange CHOH, CH2 ou hydrogène, on passe dans la bioraffinerie, on peut produire la voie que je vous ai décrite précédemment, donc faire de la formulation, de la conversion, mais aussi on peut faire de la thermochimie et renvoyer le mélange CO-H2, donc issu de la gazéification, directement dans des opérations ensuite de transformation chimique que nos amis pétroliers ou charbonniers savent manipuler depuis très longtemps. Et donc, il peut y avoir à ce niveau-là un système rendu encore plus complexe, mais on peut dire plus riche dans ses sorties. Il est plus riche, mais il génère quand même beaucoup de controverses sociétales. La première, c'est la sûreté des procédés biotechnologiques. La sûreté de deux manières. D'abord, les accidents industriels. Il n'y a aucune particularité, mais ils existent malheureusement de temps en temps. Deuxièmement, les risques environnementaux. Donc si un organisme issu de la biologie de synthèse diffuse accidentellement dans le milieu, et la sécurité des produits finaux, ce n'est pas parce qu'une molécule a été obtenue par du carbone d'origine biologique qu'elle sera nécessairement sûre, sans influence, sur le fonctionnement des animaux et de l'ensemble de la biosphère. Et donc s'applique à ce moment-là le règlement REACH qui permettra de caler donc, les procédés. Le deuxième élément, qui est éminemment politique, mais au sens noble du terme, c'est celui de la propriété intellectuelle. Quand on fait de la biologie de synthèse, On va alterner des phases de réflexion in silico sur des outils logiciels à très large spectre à partir de données publiques, et on va construire des objets biotechnologiques, des semences, des micro-organismes, des enzymes, commercialisables sur des applications très ciblées. Et on a à ce moment-là deux outils de protection de la propriété intellectuelle qui vont s'affronter sur le marché. D'un côté, les brevets, et quand vous parlez des plantes, il s'agit des certificats d'obtention végétale qui sont construits sur des logiques politiques complètement différentes. Les deux reconnaissent la propriété intellectuelle, mais les deux se construisent dans le temps avec une répartition de la valeur ajoutée et une ouverture complètement différente. Et le troisième point, c'est la partie éthique avec l'artificialisation du vivant, surtout dans le domaine de la biologie de synthèse, qui peut heurter un certain nombre de structures. Alors, je vous ai parlé des leviers dont on disposait. Ici, la partie biotechnologie verte. Ici, la partie génie enzymatique métabolique. Je vous ai abordé, effleuré très simplement la partie bioraffinerie. Cet ensemble-là, il faut le concevoir, il faut l'aborder sous sa forme globale, donc il faut mettre en œuvre une démarche holistique complète. Un exemple de démarche holistique, c'est celui de la production végétale, donc des systèmes de culture. Là, vous avez un système de culture qui est résumé, avec ses principaux compartiments, l'atmosphère, le sol, le peuplement cultivé, pour aboutir à des variables de sortie simples qui sont les rendements, la qualité des produits et la maîtrise de l'impact sur l'environnement. Et bien, en fait, vous pouvez utiliser par l'agroécologie, insérer ces lois de l'écologie dans la gestion des systèmes culturaux, de manière à travailler sur les espaces non cultivés, qui classiquement ne sont pas considérés, faire des co-cultures, l'assolement et un autre grain, la partie rotation culturale. Donc vous pouvez aboutir, in fine, à une économie circulaire du carbone biologique, du carbone d'origine biologique, donc partant du CO2 et du CH4, que l'atmosphère va transformer, normalement c'est du CO2 qui apparaît ici, et les systèmes agricoles vont les retransformer en CHOH, CH2 ou H2. Mais nous avons quatre points de vigilance à avoir. Les équilibres écologiques, la complémentarité et la concurrence avec les usages du sol, les usages de la biomasse et le carbone fossile qui fait partie du paysage. Il n'est pas question d'avoir une vision qui le rejette et qui le mette à zéro. Voilà, alors c'est cette dernière partie dont je voudrais parler. Alors, cette approche n'est absolument pas une approche qui se conçoit d'une manière simple en apportant des nouveaux outils. Non, ça repose sur une analyse systémique, faute de quoi le jeu global peut diverger et on peut tomber dans une approche scientiste classique. Donc le système n'est pas linéaire. Et la troisième particularité, en fait la plus délicate, c'est que les systèmes que l'on va construire ne sont pas des systèmes fractaux. Donc on va pouvoir reproduire une situation globale au niveau local et inversement. Parce qu'on a besoin de connaître, et on ne les a pas à l'heure actuelle, les effets d'une action locale sur une cible globale. Et le deuxième élément, en fait, c'est qu'on a des considérations éthiques à entrer, de manière à ce que des populations et des pays ayant des niveaux de développement différents réagissent en conséquence de manière différente. Et la question, elle est simple, c'est quel effort demander au niveau du développement. Et le demi-succès de la conférence de Durban en est l'illustration entre des oppositions, entre des pays occidentaux qui sont prêts à faire des efforts parce qu'ils sont riches, et avec un bon état de confort versus des pays qui sont moins développés. Alors l'économie des promesses, donc c'est un terme employé par les sociologues, on tombe et on peut tomber dans un jeu qui consiste à produire des solutions, mais il faut encore être capable d'avérer que ces solutions conduisent à une meilleure durabilité au sens défini par Drutland. Or, tous nos échanges de matières sont fondés jusqu'à présent par la loi de 1905 en France. Donc, on échange des produits qui sont sains, le règlement REACH répond à ça, loyal, il n'y a rien de caché dedans, et marchand, effectivement, on ne vend pas un bien public, on vend quelque chose qu'on a produit qui nous appartient. Ce sont les trois conditions pour rentrer un produit en commercialisation. Quand on va parler de durabilité, ces trois conditions ne sont plus satisfaisantes et on est obligé de prendre en compte les analyses de cycle de vie. Donc les impacts environnementaux, il existe une méthodologie absolument éprouvée pour ces analyses de cycle de vie. Tout simplement, il faut la faire évoluer pour qu'on passe d'une approche de site, où on regarde ce qui se passe simplement dans une usine ou dans un territoire, et qu'on aille vers des approches conséquentielles, c'est-à-dire que si on décide d'augmenter une surface à donner à un peuplement végétal, que va-t-il se passer au niveau mondial par transfert de culture si le besoin est maintenu par ailleurs ? Le deuxième élément à rentrer impérativement, bien entendu, c'est les changements d'usage des sols dont je vous ai parlé dans la première diapositive. Ça, c'est des opérations qui sont à l'heure actuelle réalisables. Mais il y a trois autres critères que l'on ne sait pas rentrer, en fait. C'est la modification des équilibres écologiques. Le rapport Chevassus-Salle a bien montré qu'on connaissait les équilibres écologiques, mais qu'on ne savait pas les exprimer, les manipuler dans une analyse cycle de vie et l'impact sur la biodiversité. Et ensuite, hiérarchiser les défis, parce qu'on se retrouve dans un système multicritères, multi-cibles, et donc il faut qu'on soit capable de faire la concurrence, la complémentarité avec les usages du sol, parce qu'il y a d'autres usages que la production. Il y a les systèmes, les services sous la forme de biens publics, il y a toute l'activité loisir, il y a l'urbanisme, et les différents usages de la biomasse pour la partie alimentaire. Bon, ça, je vais le passer parce que je suis un peu en retard. Dernier point, comment va-t-on rendre ces deux systèmes carbone fossile et carbone renouvelable compatibles et comment va-t-on les faire travailler ensemble? En fait, il suffit de partir de la durée de vie des produits que l'on va produire et de regarder ici la durabilité, donc la durabilité environnementale, soit du renouvelable, soit du fossile, donc sous réserve que le renouvelable soit produit dans des conditions satisfaisantes, et bien, tous les produits non durables, au sens Leach, etc., devraient disparaître à courte durée de vie. Et là, on devrait préférentiellement utiliser du carbone renouvelable, mais les produits d'investissement devraient plutôt se tourner vers des usages du carbone fossile, puisqu'à ce moment-là, il n'y a pas enrichissement en CO2 de l'atmosphère. L'idéal, bien entendu, serait de passer sur la diagonale, mais je vous rassure tout de suite, la capacité de production de la Terre actuellement en carbone ne permettrait pas de répondre à cette question-là. Et la dernière conclusion, c'est tout simple, ma dernière slide, c'est tout simplement pour vous dire, mais pourquoi fait-on tout ça? On fait un allongement de l'espérance de vie, de la durée de la vie, mais est-ce qu'on peut mettre cet allongement en regard de variables de consommation, de production? Et donc, le seul élément que j'ai voulu vous donner, donc en combinant deux sources de l'OMS et de l'Agence internationale de l'énergie, si vous regardez l'espérance de vie en fonction de la consommation énergétique exprimée en TEP par an et par habitant, vous avez une courbe qui est d'abord ascendante, croissante, donc c'est le point le plus bas, c'est l'Éthiopie. Ensuite, vous allez atteindre un peu plus que la Chine à 1,5. Donc là, plus vous consommez d'énergie, plus votre espérance de vie et tout ce qui en découle derrière, on peut supposer associé, va croître. Mais à partir de 1,5, c'est le cas de la France, mais c'est encore pire dans d'autres pays, il n'y a plus d'influence de la consommation énergétique sur l'espérance de vie, sur la durée de la vie. Donc on dispose à ce niveau-là d'un critère simple pour pouvoir dire à certains, vous pouvez avoir des rêves fondés sur les biotechnologies qui vont vous permettre d'augmenter votre niveau de consommation énergétique, votre espérance de vie, votre bien-être. Et puis à d'autres, dire que finalement, la consommation énergétique n'est peut-être pas le graal de leur existence. Voilà. Alors, je suis arrivé au terme de mon exposé. J'espère vous avoir convaincu qu'il s'agit d'un savoir qui est en cours de construction, avec ses incertitudes, ses controverses. Le cours que je présenterai traitera l'ensemble de ces points. Il s'appuiera très souvent sur les défis sociétaux. Il parlera forcément de biotechnologie. Les travaux qui seront présentés sont d'abord un travail d'équipe, de confrontation d'idées. Je tiens à remercier mes collègues de l'INRA, du CNRS, de l'IFPEN, Énergie Nouvelle, du CEA, qui, à des titres divers, ont apporté leurs idées, leurs compétences, leur enthousiasme, leur critique aussi, pour contribuer à l'avancement des idées dans ce domaine. Je voudrais remercier celle qui partage ma vie en compétition avec la recherche pour son soutien et sa patience face à un métier enthousiasmant, mais qui comporte aussi des phases de doute et d'euphorie. Alors, et au-delà de mes collègues chercheurs des mondes privés et publics, que j'associe complètement, mon métier m'a donné l'occasion de rencontrer différents publics de la société dite civile, de partager les mêmes interrogations et je pourrais presque dire la même foi dans l'avenir. Et donc, dans une époque un peu incertaine, où il y a de nombreux questionnements, mais il y a beaucoup d'espoir. Je pense que la mondialisation de la recherche, elle est stimulante, constructive et enrichissante. Je vous remercie pour votre attention.